C'est bien de mettre le sport féminin en avant, parce qu'on a envie que les petites filles aussi rêvent de tout ça et de susciter des vocations.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlète, journaliste, médecin ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! S'il fallait nommer l'athlète du moment, je pense que beaucoup auraient son nom sur les lèvres. Très clairement, Julia Simon a été la sportive à suivre lors de cette saison de biathlon palpitante. 18 top 5, dont 12 podiums, un titre de championne du monde de la poursuite et une saison qui s'achève avec deux petits globes, mais surtout le gros globe de cristal de leader du classement général. Une consécration pour cette Savoyarde qui voue une vraie passion pour son sport et qui, on doit le dire, performait relativement dans l'ombre jusqu'alors. Parce que oui, le biathlon français a connu un essor de popularité considérable ces dernières années, grâce à des Martin Fourcade ou autres Quentin Fillon-Maillet qui ont brillé sur les grandes compétitions. Mais les femmes restaient un peu à la traîne avec pourtant de beaux résultats, mais plus parsemés. On vous adore, Martin et Quentin, mais ça fait du bien de voir les femmes dans la lumière, et soyons honnêtes, c'est plus que mérité. Quand j'ai rencontré Julia, ce qui m'a frappé, c'est son naturel désarmant qui vous donne l'impression de discuter avec quelqu'un que vous connaissez depuis un bail, puis on se rend vite compte, en discutant avec elle, de la travailleuse acharnée qu'elle est et des remises en question dont elle a fait preuve pour arriver au sommet cette année. Sommets qui sont d'ailleurs très chers à son cœur. J'aurais pu dire que c'était une interview sans langue de bois, mais le bois, c'est une autre de ses passions, donc disons plutôt que c'est une interview qui déboîte. Bonjour Julia.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Grand plaisir d'être ici. Ça fait plaisir.
Bah écoute, moi, le plaisir partagé, j'ai envie de te dire, parce que c'est quand même un peu un honneur d'être avec une championne du monde déjà.
Merci.
Et puis en plus, avec, avec cette saison extraordinaire que tu as fait, c'est plutôt moi qui suis vraiment ravie d'être là.
Ouais, merci, c'est cool. Moi, j'écoute toujours les podcasts, donc ça fait plaisir de prendre part à cette belle aventure.
Bah écoute, ça me fait très plaisir. Alors Julia, on est là aujourd'hui pour discuter, mais aussi déjà félicitations pour ta magnifique saison.
Merci.
C'est vrai que c'est une saison absolument hors norme, j'ai envie de dire. Là, avec le recul, avec ces quelques jours maintenant que tout ça est un peu digéré, j'en sais rien justement, comment tu te sens après toutes ces aventures et toute cette saison incroyable ?
Ah, c'est complètement fou. Ça fait une semaine que c'est terminé, mais je suis encore un peu sur mon petit nuage. En vrai, c'était tellement une saison super longue avec des émotions complètement différentes et terminée à Oslo en Norvège. C'est un endroit que j'apprécie énormément. Et en plus de ça, il y avait ma famille qui était là, ouais. Mes sœurs, mes parents. Et c'était fou. Et là, ça va, je me sens vraiment bien. Petite tournée médiatique, ça m'est jamais arrivé, donc c'est cool. Je profite, je me dis que c'est pas forcément mon truc de base, mais c'est une bonne expérience. Franchement, c'est sympa. Puis voir un peu les coulisses, des plateaux télé, des trucs comme ça, c'est sympa. Je n'aurais pas pensé pouvoir vivre ça une fois dans ma vie, donc au moins, mon parcours de sportif me permet de voir des choses nouvelles, c'est top.
Bah, c'est génial. Et c'est vrai, tu parlais de tes parents, ils sont venus à Oslo, ça faisait hyper longtemps, je crois qu'ils n'étaient pas venus te voir sur une course.
Ouais, alors la dernière fois, c'était quand j'ai fait ma première Coupe du Monde. Ils sont venus en Allemagne. Donc,
en 2017
2017, exactement, à Ruhpolding. Ils ont vu que les Allemands aimaient bien faire la fête. C'était pas une légende. Mais 2017, après, ils venaient sur la Coupe du Monde du Grand Bornand en France. Donc, je savais qu'ils étaient là. Et puis, ils sont derrière la télé. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que l'emploi du temps n'était pas évident pour eux de se libérer. Donc, là, c'était un bon moment. Il y avait les sœurs, les parents, des amis. Franchement, top. Ça rajoute une petite pression quand même. Hein.
C'est vrai ?
Ouais, pas pour la course, mais pour savoir est-ce qu'ils sont bien arrivés, est-ce qu'ils ont bien réussi à rentrer dans le stade, des trucs, ça paraît un peu ridicule.
D'organisation.
Comme ça, ouais, c'est ça. Oh, c'est ça. Parce que après, c'est Oslo. Hein, de base, c'est quand même une capitale, donc c'est quand même la capitale là-bas. Mais un super endroit pour venir voir du biathlon. Je pense qu'ils se sont régalés.
Oh bien, comme à la maison, avec tout le monde, quoi.
Pareil, pareil.
Et t'arrives un peu à atterrir, là, justement, tu disais la saison était très longue, donc j'imagine que, bah, comme ça fait des mois maintenant que t'es dedans et que bah, maintenant, c'est off, t'arrives vraiment à te rendre compte de ce que t'as fait ? Ou c'est encore un peu... Ok, bon, bah, je sais pas, j'ai fait une bonne saison. Mais...
Ouais, bah, je pense qu'en fait, déjà, de base, les filles, mes concurrentes, tout ça, qui viennent à la fin de la course se dire bravo, belle course, surtout belle saison, ce que tu as fait depuis tout début de l'hiver, c'est fort. Ça m'a aidé à prendre conscience. Et puis, même là, en fait, de me dire ouais, je suis à Paris pour faire une tournée médiatique, voir du monde, c'est vraiment cool. Et c'est ça qui m'aide à réaliser. Et la famille, en fait, voir la famille, les amis et le club des saisies, bon, c'est mon club avec les petits-enfants, ils sont tout contents, ils ont des étoiles dans les yeux, c'est quand même la classe. Ça, c'est vraiment cool et je pense que c'est plus les personnes autour qui m'aident à vraiment me rendre compte de tout ça. Et quand on est sportif, en fait, on a tendance à aller toujours voir le futur, hop, c'est fait, bon, on va voir autre chose, un autre objectif. Et c'est vrai qu'il faut prendre un peu le temps des fois de se retourner et se dire, waouh, c'était une belle saison, c'est bien ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'essaye de faire et c'est vrai que c'est pas toujours évident.
T'as pu repasser chez toi depuis ? T'as pu rentrer au Saisie, justement, tâter un peu l'ambiance là-bas ?
Ouais, je suis rentrée juste chez moi avec mes parents. Ils m'ont fait une petite surprise avec un peu de famille et quelques amis. Mais il y a une grosse fête qui est prévue, au Saisie pour fêter le retour. Je crois que les copines, elles ne vont pas me louper, là. je vais rentrer, ça va être bien. Ça va être un bon moment, je pense.
Ah bah c'est normal, en même temps, il faut quand même fêter ça. C'est quand même
mince. C'est dur, hein. Je suis prête. Hein.
Je souhaite que ça t'arrive plusieurs fois dans ta carrière. Mais bon, c'est la première fois, ça se fête.
Non, c'est sûr, ça va être bien. Et puis c'est sympa d'échanger avec les enfants aussi, de leur dire que peut-être ça peut être eux s'ils travaillent bien, s'ils ont envie, si c'est vraiment quelque chose qui les fait rêver. Et puis d'échanger avec les gens qui aussi m'ont aidé à arriver à ce niveau-là, de dire merci et de voir tout le monde content, c'est top.
C'est génial. Quand tu as commencé cette saison-là, j'imagine que tout le monde t'a posé la question, mais est-ce que tu avais cet objectif en tête ?
Non, pas du tout. Ça paraît bizarre de dire ça, mais pas du tout. En fait, je suis quelqu'un qui faisait des 60e places, qui allait faire un podium, une victoire, qui le lendemain repassait à la 40e place. Ouais. J'étais très irrégulière et je disais au coach, moi, cette année, je veux être régulière. Je veux jouer la régularité. Je veux jouer un top 5 au classement général. Je veux que dans un ou deux ans, j'ai les armes pour jouer un classement général. Et je pensais pas qu'en fait, ça arriverait aussitôt. Donc, top, je suis contente. Franchement, c'est pris. C'était un super hiver. On va pas me l'enlever. Donc, je suis vraiment très heureuse. Et là, c'est clair que j'ai rempli mon objectif de régularité. Mais,
c'est clair.
c'était du travail. Hein,
tu pouvais pas mieux le remplir. Mais c'est fou quand on t'écoute. Parce que, est-ce que justement, c'est le fait de ne pas t'être mis de pression vraiment en début de saison qui fait que aussi peut-être tu as performé de façon plus constante parce que tu dis je voulais faire un top 5, finalement tu fais numéro 1.
Ouais, je pense que en fait déjà je me suis pas mis de barrière, c'était un objectif de faire dans le top 5 du général, mais si je pouvais faire mieux tant mieux. Mais non, je pense que ça m'a aidé à prendre vraiment course après course. Et une fois que je faisais une bonne course, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, elle est prise, celle-ci, c'est top, il y en a une prochaine, bon, bah, je vais me reconcentrer. Jusqu'au jour où j'ai eu ce maillot jaune, où je me suis dit, bon, bah, là, en fait, c'est un rêve de gosse, clairement, de porter ce maillot.
Qui arrivait vite.
Qui arrivait mi-décembre. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, sur la deuxième étape, quoi, on va essayer de faire une course avec la pression sur les épaules. Et finalement, bah, j'ai réussi à faire une super course. Je viens la gagner, cette poursuite. Donc, c'était une première course avec le maillot jaune. Ouais, j'étais vraiment très fière. Mais, je ne l'ai pas trop montré, mais j'étais quand même vraiment très fière. C'était quand même quelque chose où je me suis prouvée, en fait, à moi-même, que j'étais capable de gérer cette pression. Derrière, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il y a l'étape à la maison, au Grand Bornand. Ouais. Bah, je vais essayer de ne pas perdre le maillot à la maison. Ça serait quand même dommage. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à y croire. J'ai commencé à vouloir me battre pour ce maillot. Mais il y avait les championnats du monde qui étaient en février. Du coup, je me disais tout le temps, ouais, les championnats du monde, c'est bien. Il faut aussi que je sois performante. Et en fait, une fois que ces mondiaux ils sont passés, je pouvais plus me cacher. C'était bon, bah là, clairement, si je perds le maillot en fin de saison, je serais déçue. Donc, c'est mon objectif. Maintenant, il faut y aller. Mais c'était bien parce que j'ai pris cette saison avec du recul, ouais, course après course. Pas mettre trop de pression, les journalistes ils m'en parlaient, mais je leur disais on verra, je vais prendre course après course. Et c'est bien, hein, c'est de prendre ce recul-là, je pense que c'est important.
En fait, t'as presque changé d'objectif en cours de saison,
ouais,
après les mondes.
C'est ça, exactement. En fait, je commençais à m'autoriser quand même à rêver à ça, à me dire ah, ça pourrait être bien, mais je me disais écoute, tu peux pas courir après tous les objectifs, donc de base tu voulais être performante aux mondiaux, donc essaye déjà d'être performante aux mondiaux et après tu verras. Et en fait les mondiaux, ça m'a enlevé un énorme poids. Je suis arrivée en tant que leader et il y avait de l'attente. Et une fois que j'ai fait ma médaille, enfin mon titre, je me suis dit waouh, ouais, c'est bon, c'est ouf déjà ce qui est en train de se passer, parce que j'étais sur le podium avec deux grands noms du biathlon.
C'est clair.
Et après, je me suis dit ouais, bah voilà, maintenant c'est bon, il faut y aller.
T'es championne du monde de poursuite.
Ouais, c'est ça.
Et je crois que c'est une épreuve que t'apprécies quand même particulièrement.
Ouais, moi j'aime bien la confrontation. j'aime bien quand il y a du monde autour de moi, que ça bouge, que c'est électrique. Donc la poursuite, la Mastart, c'est mes courses. D'ailleurs, c'est les deux courses où je fais les médailles. Donc c'est ouais, j'adore.
Les deux courses où tu fais les médailles, c'est les deux courses aussi où tu fais tes petits globes.
Oui, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça aussi.
Parce
ouais,
que là, on s'y perd.
Hasard. Non, il n'y a pas de hasard.
On s'y perd avec toutes ces médailles et tous ces podiums que tu as fait cette saison, on ne sait plus.
Ouais, il y a eu deux petits globes aussi. Ça récompense aussi la régularité dans ces courses-là. La poursuite où j'en gagne trois si on compte les championnats du monde. Et la Mastart où j'en gagne une, mais où je fais aussi pas mal de podiums. Donc c'est top. Franchement, moi, c'était mes rêves. Hein. Ces courses-là m'ont toujours fait rêver. Donc j'ai coché des très belles cases dans ma to-do list. Là, cette année, c'est assez fou.
T'as fait 10 podiums, je crois, cette saison?
12,
ouais, ah, peut-être, 12. Oui, 10, c'était... Ouais, t'as raison, c'était avant les dernières...
Ça, j'avoue, je compte pas trop, c'est les journalistes qui me disent le plus.
Bah, c'est normal.
Mais je crois qu'il y a 12, ouais, parce que je crois qu'il a battu un record, donc ouais, franchement, j'aurais jamais pensé pouvoir faire une saison aussi régulière, et ouais, ça, c'était un bel objectif, je trouvais très ambitieux, et je suis vraiment très contente d'avoir réussi à cocher tout ça.
C'est vrai que la régularité, on sent que c'est vraiment le maître mot de ta saison. C'est ce que tu voulais. Je crois que c'est même d'ailleurs ton entraîneur qui l'avait, avant ta saison, qui avait dit « on va chercher de la régularité aussi ». Donc, c'était vraiment le maître mot.
Ouais, on était sur la même longueur d'onde. Ouais.
Et il a quand même annoncé avant la saison que tu étais très en forme et que tu avais beaucoup progressé aussi, particulièrement sur ton tir couché. Donc, on sentait en tout cas une certaine forme de confiance aussi de la part de ton entraîneur, donc ça vient pas de nulle part.
Non, ça vient pas de nulle part, il y a énormément de travail. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Paul Giacchino, qui est mon coach de tir, donc Polo, quand il est arrivé, il m'a dit, ouais, Julia, si tu veux être une vraie biathlète, il va falloir qu'on change des choses et qu'on refasse un tir plus calme et plus posé.
D'accord.
Moi, je me suis dit, mais wow, ça prend combien de temps? Parce que ça fait 10 ans que je fais du biathlon, donc des automatismes, j'en ai pris, quoi.
Ouais.
Donc il me dit, il faut 2 ans. Et je me suis dit, mais 2 ans, ça veut dire que les Jeux de Pékin, c'est passé, quoi. Donc, j'ai eu du mal à l'accepter. Mais quand je l'ai accepté, quand je me suis dit, bon, OK, il a raison. J'ai plus envie d'être la biathlète qui fait des coups d'éclat. J'ai envie d'être la biathlète sans prétention, me dire la biathlète qui a le meilleur palmarès, mais juste d'être une biathlète...
De référence.
De référence, ouais. Faire partie des meilleurs et pas qu'une fois de temps en temps.
Ouais.
Donc, j'ai accepté ce challenge et il s'est arraché les cheveux. Il a pris des cheveux blancs. Il a perdu quelques années de vie. Mais on a réussi. Et ça, franchement, je le remercie parce que du coup, là, ça fait la troisième année et mon tir s'est vraiment stabilisé. Ça a été la clé. Clairement, ça a été la clé. Ça a été de trouver cette régularité au tir couché. Parce qu'en plus, c'est le premier tir qui arrive dans les courses. Donc, de pouvoir être dans la course directement et après, derrière, d'essayer de faire la différence sur un tir debout ou sur un dernier tour physiquement au mental.
En fait, presque, ça a été une refonte totale de choses que tu avais acquis depuis des années.
Ouais, il a fallu démolir pour reconstruire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis à l'entraînement, que je pense à ce que j'ai à faire de bien, c'est assez facile. Par contre, quand tu arrives en course, que tu as le pouls à 180, 190, qu'il y a la pression, qu'il y a le monde autour, qu'il faut aller vite, il y a des fois où je repartais un petit peu dans mes travers. Donc, ça a été un travail sur le long terme. Et ouais, je peux dire que là, ça a été la plus grosse évolution de ma carrière.
Tu sens qu'il y a encore de quoi évoluer, encore des progrès à faire?
Ce qui est bien en biathlon, c'est qu'il y a toujours des progrès à faire. Toujours, c'est un éternel recommencement. Mais oui, je peux encore améliorer mes statistiques et surtout mon tir debout. C'était mon point fort jusqu'à maintenant. J'ai toujours travaillé mes points forts, mais beaucoup mon point faible. Donc là, maintenant, je peux essayer d'être encore plus régulière sur mon tir debout, d'avoir encore plus d'exigences. Et je pense que ça peut faire la différence sur les prochaines compétitions.
Tu disais que justement, cette refonte et ce travail au tir, on t'a directement dit que ça va prendre au moins 2 ans. Et que y a eu les Jeux aussi l'année dernière. Et que du coup, quand on t'a dit ça, mince, il y a les jeux quand même, c'est quand même un objectif un peu important. Est-ce que là, maintenant, à la vue de la saison que tu as fait cette année, ça t'a un peu, entre guillemets, des regrets peut-être sur tes jeux, après avec une très belle médaille, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on voit tes performances, j'imagine que tout le monde se dit « Ah, si ça avait été l'année dernière avec des si on refait le monde. Hein, »
c'est ça, exactement. Avec des si on refait le monde et encore plus en biathlon. Si j'avais mis cette balle, si j'avais pas. Mais non, franchement, pas de regret. Parce que je pense que j'étais pas prête. J'étais pas assez mature. Mon biathlon était pas assez mature, était pas prêt. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc, je suis repartie de ces jeux avec une médaille. J'étais forcément déçue un peu de mes courses individuelles parce que justement, ça passait toujours à une balle près.
Ouais.
Mais ça, c'est le biathlon. Et je pense que ça m'a beaucoup appris aussi. Ça m'a appris à gérer les grands événements avec les attentes médiatiques aussi, moi, mes attentes perso. Et je pense que ça m'a vraiment servi. Cet hiver, je suis arrivée avec beaucoup de sérénité et de calme. Mais parce que aussi, je pense que j'ai vécu des jeux un petit peu plus compliqués où j'ai beaucoup de déceptions. Et je pense que je me suis vraiment servi de ça. En tout cas, j'ai vraiment essayé de comprendre. Quand je suis rentrée à la maison l'année dernière, je me suis dit, bon, ok, on va poser les choses. Pourquoi t'as pas réussi? Est-ce que t'as eu peur de perdre? Est-ce que t'as eu peur de gagner? Et du coup, c'était cool de me poser vraiment ces questions. Et je pense que ça m'a servi pour cette saison et j'espère aussi pour la suite.
Parce que souvent, quand on écoute les sportifs qui reviennent des Jeux Olympiques, souvent il y a une sorte de décompression. Et ils disent, en fait, c'est hyper compliqué de se remobiliser après soit des très bons jeux, soit des jeux décevants. Toi, au contraire, ça t'a donné plutôt un élan supplémentaire.
Ça m'a donné un élan supplémentaire. Ça m'a donné envie de performer plus parce que en fait, on vit quand même des moments dingues. Hein. Mais c'est tellement court, c'est tellement éphémère qu'on a envie de le revivre. Cette médaille au jeu avec l'équipe en relais mixte, j'avais envie de le revivre aussi. Mais je voulais comprendre pourquoi, comment le revivre. Et donc du coup, je me suis posé des bonnes questions. Et cet hiver, ça m'a permis de vivre aussi des moments super intenses. Je pense vraiment ces jeux m'ont motivé pour la suite, m'ont aussi apporté confiance à me dire je suis capable moi aussi. C'était la première fois que je mettais un dossard dans un si gros événement, donc je l'ai fait, je suis capable et les prochains je serai prête pour performer.
Tu penses que ça a été important que toi tu te rendes compte que t'étais capable de le faire, qu'il y ait un déclic personnel en fait?
Oui, bien sûr. Je pense que mental, la perf, pour moi, elle a 50% de mental. Hein. Ouais. Donc, il faut se convaincre qu'on est capable et surtout de se le montrer. En fait, c'est juste. Je pense que les coachs croient plus en nous que nous en nous-mêmes parfois. Et c'est peut-être un petit peu le problème aussi, des fois. Donc, il faut quand même avoir confiance. Mais ça, c'est un petit truc aussi un peu féminin. On a quand même du mal avec la confiance en nous.
Malheureusement,
ouais. Mais non, là, franchement, c'était. En fait, c'est surtout ces émotions qui me donnent envie de revivre, qui me motivent chaque jour à aller m'entraîner, quoi.
La petite médaille, j'allais dire. La médaille à Tokyo, ça a été justement le.
À Pékin.
À Pékin, pardon.
Je n'ai pas encore passé
en sport d'été. Ouais. Pardon. À Pékin, ça a été la muse-bouche qui t'a donné envie après de manger l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Quoi.
Exactement, c'est ça. Non, mais c'était des super moments. Et puis en fait, c'est tellement court, c'est tellement éphémère et c'est tellement qu'il faut profiter à 100%. Et ces jeux, en fait, je les ai vécus, mais est-ce que je les ai vraiment vécus à 100%? Ouais. Je sais pas, parce qu'en fait, la médaille, elle est arrivée sur la première course. Donc, j'ai vécu ma médaille, c'était ouf, mais je me disais, il y a toutes les courses qui arrivent encore après. Et une course loupée, une deuxième course loupée, et en fait, on ressasse. Et je pense qu'il y a un moment donné où j'ai pas assez profité de ces moments et où j'aimerais ne pas refaire ces erreurs-là dans le futur.
Après, c'était tes premiers jeux, enfin, c'était deuxième, mais les premiers, t'étais remplaçante.
Les premiers, j'étais remplaçante. Donc, vraiment, les premiers, j'ai eu la chance de profiter de l'ambiance à 100%. J'ai fait la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture. J'étais avec le staff sur le bord de la piste pour la course des biathlètes. Et puis, j'avais eu la chance d'aller voir le ski de fond parce que à Pyeongchang, c'était à côté. J'avais profité de l'ambiance à 100%. Et du coup, je regrette pas d'avoir fait le déplacement en remplaçante sur mes premiers jeux parce que c'était déjà une opportunité énorme. Je pensais pas pouvoir me sélectionner en tant que remplaçante. Et en fait, j'ai vécu à 100% l'ambiance olympique. Et quand je suis arrivée à Pékin, je m'étais dit, ok, je suis prête à perfer, mais pas complètement au final.
Bon, écoute, c'est...
Ouais, chaque chose en son temps. Hein.
C'est comme ça, il y a déjà eu une très belle médaille. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit aussi ta saison, on se dit que finalement, ça a été constructeur.
Oui, bien sûr. Il faut se servir aussi de tout ça. Et une médaille au jeu, c'est quand même pas rien. Donc non, y avait quand même du bon et aucun regret.
Cette année, on va dire, l'équipe féminine, même dans sa globalité, a plutôt performé.
Ouais.
Y a eu énormément de podiums avec des Françaises sur cette saison.
On a battu nos records. Ça, c'est beau.
Je crois que j'avais noté. Déjà, dans le classement général, vous êtes 6 dans les 21 premières.
C'est fou, ouais.
C'est quand même incroyable. Et sur les 20 premières courses, vous êtes monté à 14 reprises sur la boîte. C'est énorme.
Ouais, c'est beau. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est qu'on a fait des doubles podiums. Et ça arrive pas tous les jours, faire des doubles podiums comme ça, quand il n'y a que 3 places. Et quand il y a déjà 2 Françaises, c'est quand même quelque chose de particulier. Ouais.
Comment t'expliques que cette saison... on sent qu'il y a eu peut-être une sorte d'émulation dans le groupe, comme s'il y avait eu une éclosion aussi, parce qu'il y a des plus anciennes, il y a des plus jeunes.
Ouais, la plus ancienne, elle avait 30 ans, donc ouais, ça va. Non, mais oui.
Enfin, des plus anciennes, en termes d'expérience, ouais, je veux dire. Voilà, c'est ça. Et d'autres qui ont un peu moins d'expérience. Mm. On sent qu'il y a une vraie complémentarité aussi dans cette équipe.
Ouais, on a eu Anaïs Bescon qui est partie à la retraite et Justine Brezas qui a fait une petite pause maternité. Et du coup, ça a ouvert des places pour les plus jeunes qui étaient peut-être des fois à faire la navette entre le circuit BU Cup, qui est le circuit juste en dessous de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde, du coup. Et ça a permis à ces filles-là d'avoir leur chance, et on voulait toutes être dans les relais, parce que les relais, il n'y a que 4 places, donc on veut toutes être dans les relais, on veut toutes être sélectionnées. Du coup, ça a apporté vraiment une super émulation, et là où vraiment je me suis dit, on a vraiment une très grosse équipe, c'est pendant l'été à l'entraînement où je me suis dit, on va toutes dans la même direction, on a toutes envie des mêmes choses, et je pense que si on arrive à garder ce niveau d'exigence tout l'hiver, on peut faire des belles choses, et ça s'est démontré, donc c'est vraiment cool, parce que le savoir, nous, c'est une chose, mais ouais, pouvoir le montrer comme ça au monde entier, aux concurrentes aussi, parce que les Suédoises, c'était une équipe vraiment très redoutable, les Allemandes, les Norvégiennes, et c'est cool d'avoir pu devancer ces nations-là.
Est-ce que vous, justement, cette on peut parler de compétition interne, même si vous êtes aussi ensemble sur les relais, donc forcément vous êtes une team, mais ça vous motive aussi un peu plus à, tu le disais, bah justement, à être dans les relais. Est-ce que ça crée un petit peu comment dire,
une bonne dynamique?
Ouais, une bonne dynamique. Ouais. Ouais.
Bah ouais, bien sûr, forcément. Je pense que c'est, en fait, on se pousse à toujours être meilleur. On a toutes nos qualités et tous nos points faibles. Et du coup, on va chacune jouer sur nos qualités pour aller titiller l'autre à côté et lui dire, bah, moi, je tire plus vite. Ouais, mais moi, je tire mieux. Et moi, je skie plus vite. Et enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Et je trouve que c'est important, du coup, d'être dans un groupe parce que on peut au moins vraiment se confronter à tout le monde. Mm. Et on se tire toutes vers le haut. Hein. Là-dessus, s'il y a aucun doute là-dessus, on va.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vraiment, on va essayer de piocher les qualités de chacune et être toujours meilleur, je pense que c'est ça qui fait la différence aussi, c'est qu'on a vraiment une équipe où on est toutes complètement différentes. Du coup, on peut piocher un petit peu partout chez chacune, et ça c'est top.
C'est vrai que c'est une année aussi avec tes très bons résultats, les bons résultats de tout le monde, où on a beaucoup, presque plus parlé des filles que des garçons, ce qui, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est dommage parce que ça devrait être le cas tout le temps, qu'on parle autant de l'équipe féminine que de l'équipe masculine. Est-ce que tu l'as observé, ça? Est-ce que t'as senti qu'il y avait un traitement, que ce soit médiatique ou autre, qui était différent cette année?
Ouais, j'ai vu une petite diff quand même, donc ça nous fait plaisir, franchement, c'est cool. Mais le biathlon masculin a tellement pris de place pendant des années avec un Martin Fourcade qui a dominé. Et on s'est dit, ah, bah, il n'y a plus Martin, peut-être que. Et il y a eu Quentin Fillon-Bailly, ouais, qui a fait un hiver phénoménal aussi. Mais non, du coup, là, c'est vraiment top de pouvoir. En fait, ce qui est top, c'est que tout le groupe féminin ait fait des belles performances. On a gagné le classement par nation, c'était jamais arrivé. Mm. On a gagné le classement du relais féminin, c'était un truc de fou aussi. On a gagné le classement mixte, donc filles et gars mélangés. Et moi, j'ai fait mes 3 globes. On en reparle, le groupe féminin part avec 6 globes. Et c'est un truc de fou. Donc ça, c'est, on sent que les médias étaient contents de mettre en avant notre équipe féminine. Et il y a même les étrangers qui venaient nous voir des fois, enfin qui venaient voir les médias français et dire « Mais oh, elles ont fait quoi, les filles ?» Parce que là, tout l'hiver, en fait, on avait toutes des coups de mou, mais des moments différents. Du coup, d'accord, les pauvres, ils ont toujours vu des Français dans les meilleurs temps de ski. Ou... Ouais. Et donc, ils disaient « Mais c'est pas possible. Comment elles font pour tenir l'hiver ?» Et ouais, c'était du coup une grande fierté de se dire que cette équipe féminine française, elle commence à être regardée. Mais je pense que c'est bien enfin qu'elle soit en lumière, parce qu'on avait quand même vraiment des bons résultats, mais on n'arrivait pas à prendre la lumière, même si ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Mais quand même, c'est bien de mettre le sport féminin en avant, parce que on a envie que les petites filles aussi rêvent de tout ça et de susciter des vocations.
En fait, les résultats, vous en faites depuis des années. C'est pas cette année par magie.
C'est pas tout nouveau. Hein. Non, c'est pas nouveau. Il y en a eu beaucoup, des résultats. Mais oui, avant, on avait du mal à se mettre en lumière. Et puis, parce que si les garçons, ils sont plus aptes à assumer ce statut de leader, nous, quand on vient nous parler, on était moins sereines. Donc, j'espère que maintenant, ça va changer un petit peu. Je pense qu'on est prêtes aussi. On voit que toute l'équipe, en tout cas, nous soutient, que ce soit les coachs, les techniciens, tout le monde est derrière nous. Donc, j'espère que ça va durer longtemps et qu'on va pouvoir continuer à performer comme ça.
Ça te fait pas peur maintenant, justement, d'assumer une certaine posture de leader ?
Non, parce que les résultats ont été là, donc ça peut être normal. Après, je suis pas la seule, en fait, aussi, c'est ça, c'est que l'équipe est tellement forte que je suis pas la seule. Et je pense que c'est différent s'il y a qu'une personne qui performe. Mais là, je porte pas l'équipe à moi toute seule. Il y a vraiment, l'équipe se porte vraiment très bien et a des bons résultats. Donc, je pense qu'on peut... On peut compter sur tout le monde et c'est ça qui est vraiment génial.
Il était temps, mince. Enfin, non mais c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai.
C'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec Anaïs Chevalier Boucher sur une autre interview juste avant justement votre saison.
Ouais.
Et elle disait qu'elle trouvait encore malheureusement, c'était vraiment, elle disait ça juste avant la saison, donc je trouve ça assez drôle. Elle disait malheureusement qu'elle trouvait qu'il y avait encore une différence de traitement entre les femmes et les hommes et qu'elle trouvait ça dommage. Et je trouve c'est un beau pied de nez finalement. D'écouter ce qu'elle a dit juste avant et de voir à la fin de la saison que, bon, bah, tu vois, finalement, là, sur cette saison, ça a été un peu l'inverse. Et ouais, on a un peu tapé d'ailleurs sur les garçons, hein, parce que on attendait d'eux qu'ils fassent des meilleurs résultats, ce qui n'a pas forcément été le cas.
Mais oui, pour nous, c'était sympa, du coup, de pouvoir prendre la lumière et dire, eh ouais, nous aussi, on est là.
Bah ouais, non, c'est
mais,
vrai.
Mais c'est cool. Mais après, je pense que vraiment, le biathlon, on a de la chance. On est un sport quand même, l'IBU, donc c'est notre fédé internationale. On est quand même, je pense qu'on est un sport exemplaire là-dessus parce qu'on a, les prize money sont les mêmes, les horaires de compétition sont les mêmes. C'est-à-dire qu'une semaine, c'est les filles qui courent avant les garçons, la semaine d'après, c'est inverse. Donc, c'est pas que les garçons qui ont la meilleure heure d'audience, tout ça, c'est vraiment là-dessus, ils sont top, ils nous mettent autant en avant que les garçons. Je pense qu'il y a une grosse volonté d'équité et je pense qu'on se rend compte de la chance qu'on a parce que c'est pas la même chose encore dans tous les sports et ça, on en est vraiment conscient et je pense que ça prouve aussi qu'ils ont à cœur de développer le sport féminin et c'est bon à prendre, en tout cas, là-dessus, on les encourage, ils nous posent des questions, ils essayent des fois de nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Donc, c'est vraiment une volonté de continuer à développer cette égalité.
C'est important de le préciser, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout le cas dans tous les sports.
Ouais.
Depuis quelques années, alors effectivement, comme tu le disais, par les bons résultats de Martin Fourcade, puis de Quentin Fillon-Maillet, c'est un sport aussi qui a de plus en plus attiré l'attention du grand public. Et un sport qui est de plus en plus regardé aussi, qui est diffusé en clair, par exemple,
ouais,
sur la télé.
Ce qui est fou, c'est qu'on fait les mêmes audiences que les garçons. C'est ça, en tout cas, merci. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui regardent le biathlon, merci de nous regarder aussi. C'est top. Et c'est vrai que la domination norvégienne chez les garçons cette année a fait aussi un petit peu du mal au sport masculin. Et du coup, bah, les gens aussi ont beaucoup regardé le sport, le défi, le biathlon féminin. Et ça, c'est cool pour nous. C'est vraiment bien. Il faut qu'on continue à rendre la concurrence aussi rude parce que c'est cool, ça met du suspense et les gens sont bien, ouais, ils se sentent bien et ils ont envie de voir qui va gagner aujourd'hui et ils savent pas le résultat à l'avance, donc c'est top.
Ouais, c'est, j'ai vu dans plusieurs interviews, tu disais effectivement que dans le biathlon, on sait jamais à l'avance. Il y a quelqu'un qui peut être très en forme mais se trouer sur une compète et que c'est aussi ça qui fait que c'est hyper intéressant de suivre le biathlon.
Ouais, c'est, il y a jamais rien qui est écrit à l'avance. Tant que la ligne n'est pas passée, c'est pas fini. Et ouais, ça, je pense qu'on l'a bien vu sur sur mon titre de championne du monde. J'ai vu pas mal d'articles avant de partir en disant, on va pas se mentir, Julia Simon ne sera jamais championne du monde de la poursuite.
C'est vrai.
Ouais, je citerai pas les articles, mais
oh,
ouais.
C'est très violent.
Et 3 heures après, je pense qu'ils s'en mordaient un peu les doigts parce que c'est du biathlon, parce que même si je partais à 1:03, je crois.
Mais tu partais avec un peu de retard. Mais...
Ouais, je partais avec du retard, mais rien n'est impossible. Et du coup, je pense que voilà, le public, ils sont aussi à l'affût de la moindre porte ouverte et du moindre tournant dans la course. Donc ça, c'est cool. Je pense que pour les publics, c'est top. Ouais.
Est-ce que c'est compliqué, ça, à gérer? Parce que je trouve ça hyper violent d'annoncer avant même la course, elle ne gagnera pas. Et toc.
Ouais.
Comment tu fais pour gérer ça? Parce que c'est vrai que t'es plutôt quelqu'un qui n'est pas forcément, entre guillemets, à l'aise. C'est toi qui le dis, moi, je te trouve très à l'aise. Mais... Avec les médias, la télévision, etc. Mais ça fait aussi partie de ton sport. Comment tu gères?
Je pense que ça s'apprend, en fait. Parce que ça s'apprend et au début, on est impacté par tout ce qu'on peut lire, les critiques. Si elles sont constructives, on peut les accepter, mais généralement, ceux qui écrivent ne sont pas ceux qui construisent le plus leurs critiques. Mais je pense que ça s'apprend, ouais. Franchement, au début, tu t'impactes, ça te fait déprimer 10 minutes, après tu prends du recul. Et maintenant, je laisse les gens, au moins je me dis, on parle de nous, c'est bien, on parle de nous. Mais oui, parfois, envie de dire, mais laisse-moi faire mon sport, laisse-moi faire ma course, et on compte les points après, on verra ce qui se passe. Mais il faut prendre du détachement, hein, parce que sinon, on se bouffe la vie avec tout ça, ouais. Avec la critique, avec les « moi, j'aurais pas fait ça », « moi, je... » Voilà, il faut... Les gens, maintenant, les réseaux sociaux, ils ont le droit de parler, il y a la liberté d'expression, ça devient facile parce qu'on se cache derrière un pseudo ou derrière un écran. Mais c'est d'un côté, je me dis que ces personnes-là font vivre aussi notre sport. Ça veut dire qu'ils regardent, ils commentent, mais ça veut dire aussi qu'ils regardent. Donc je me dis tout ça et je me dis juste que j'espère pour lui qu'il aurait la force de venir me le dire en face si jamais je le croisais en vrai. Il faut vivre avec notre temps et je crois que les réseaux sociaux, il faut commencer à bien le gérer parce que ça, on n'est pas parti pour s'arrêter.
Est-ce que tu as l'impression de presque faire un autre sport que quand tu as commencé le biathlon? Là, maintenant, et d'autant plus dans une année comme ça où les projecteurs sont braqués sur toi, ça change quand même presque de dimension.
Ouais, ça change de dimension. Alors après, c'est d'un côté, je me dis que c'est vraiment bénéfique parce que c'est aussi ce changement de dimension qui m'apporte aussi des partenaires, qui me permet de vivre aussi de mon sport.
Bien sûr.
Donc, c'est cool que ce soit médiatisé. Et puis, pareil, j'ai envie aussi que mon sport soit connu parce qu'on se donne du mal, on s'entraîne beaucoup. Je pense que c'est un beau sport avec des belles valeurs. Donc, j'ai envie que mon sport soit connu. Après, je suis arrivée doucement sur la Coupe du Monde. J'ai vraiment un chemin linéaire. Je n'ai pas arrivé d'un coup. Du coup, j'ai eu le temps de voir venir, j'ai eu le temps de voir la critique parce que cette année, je trouve les gens ont été bon, il n'y avait pas beaucoup de choses à critiquer non plus, mais bon, quand tu gagnes, il y en a quand même qui arrivent à dire ouais, mais c'est pas mérité, mais bon, c'est comme ça, c'est bien français. Mais je me suis plus fait critiquer les années d'avant où du coup, justement, je faisais 40e, le lendemain, j'arrivais à les gagner et là, le coup d'après, je repassais dans l'anonymat. Et en fait, c'était plus là où les gens ne comprenaient pas comment c'était possible de faire des aussi gros écarts de résultats et où la critique était très, très, très forte. Mais je pense que je suis arrivée de l'île du circuit BU Cup où on est clairement dans l'anonymat. J'ai fait mes premières courses, deux, trois commentaires positifs, deux, trois commentaires négatifs. Je suis repartie dans l'anonymat, je suis revenue.
Ouais, ça a été progressif.
Ouais, progressif, quoi. Je pense que quelqu'un qui arrive de l'anonymat, boum, qui explose d'un coup et qui prend des critiques, c'est un peu plus dur. Mais après, il faut avoir la force mentale aussi pour prendre du détachement et se dire que c'est que du sport aussi. On fait ça par amour du sport, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et ça reste du sport, il y a une vie aussi à côté.
T'as toujours le même amour de ton sport, hein?
Ouais, franchement, ouais. Bien sûr. Il faut, hein, parce que les heures d'entraînement qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait.
Ça peut te dégoûter aussi, c'est vrai, à force de faire tellement, tellement, tellement.
Ouais, mais j'ai la chance de faire du biathlon et ce qu'on nous demande, c'est de faire du cardio. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup d'heures de ski roue. L'été, on fait du ski à roulette et ça remplace un petit peu la glisse. C'est pas la même sensation, mais ça se rapproche. Et du coup, je peux faire du trail, la course à pied sur route, en trail. Je peux faire du VTT, du vélo de route. Je peux faire vraiment tout ce que je veux, en fait. Et ça, c'est top. Ça permet de ne pas avoir de routine, de casser aussi ce schéma où tu te dis tel jour, je fais ça. Enfin, là, c'est vraiment en fonction de la météo, je fais ce qui me plaît. Tu
arrives à ne pas être fatigué en fait, de ton sport.
Ouais, non, je suis pas fatiguée de mon sport, ça va. Pour le moment, ça va. Après, comme tout le monde, je pense que j'ai eu un coup dur où j'ai eu envie d'arrêter après une blessure où j'y arrivais plus, j'arrivais pas à revenir. Forcément, le haut niveau, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a quand même des moments de doute. Mais au final, qu'est-ce qui m'a fait continuer? C'est ça, c'est cet amour pour le sport, cet amour pour la compétition, c'est transmettre des émotions. Ça, franchement, transmettre des émotions, c'est quelque chose de fort aussi. Hein. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire. Et de partage. La famille, les amis, les relations qu'on se crée aussi. J'adore. J'étais vraiment très nulle en anglais. Et au fur et à mesure, je me suis fait un peu des amis sur le circuit. Elles sont cool, elles sont patientes. Elles essaient de m'aider en anglais. Et maintenant, j'arrive à échanger avec elles. Donc c'est vraiment cool. Et ouais, je me suis fait des amis sur le circuit. C'est des choses que tu peux pas rencontrer. Des gens que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de rencontrer si j'avais eu une vie lambda, quoi.
D'ailleurs, très bien l'anglais, parce que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux et qui était postée où tu parles en anglais.
Super, avec l'accent français et tout.
Ça, c'est pas grave. C'est
non, pas grave. Mais je me suis améliorée à force. À force, ça va.
C'est la magie du sport aussi, finalement. C'est que ça nous fait faire des rencontres qu'on n'aurait pas fait.
Exactement. Et je pense que j'aimerais bien des fois revoir mes profs d'anglais du lycée, parce que je m'avais mis un petit 0 sur 20, je m'en souviens encore, et je suis prête à refaire l'interro. Mais comme quoi on évolue. Hein, je pense que je leur disais ça à mes profs. Si je leur dis dans 10 ans, je parlerai anglais, elles n'auraient pas pensé. Donc ouais, ça fait une belle évolution, même en dehors du sport.
Tu viens des montagnes, ouais. Dans un cadre paisible avec les vaches. On est loin, on va dire, entre guillemets, de l'agitation médiatique, de Paris, de tout.
Clairement.
Ça. C'était des choses que tu avais imaginées quand tu étais plus jeune et que tu as commencé le biathlon?
Non, et c'est pas quelque chose qui me faisait rêver. C'est pas ça qui me faisait rêver, non, du tout. Non, moi, mais encore aujourd'hui, hein, je pense que pareil, je m'y habitue et puis c'est cool de pouvoir promouvoir son sport. Mais au début, c'était dur. Les interviews, on me posait des questions. Alors, j'essayais de ne pas faire le oui, non, de développer un petit peu. Mais ça vient aussi avec l'entraînement. Et non, j'aurais pas imaginé être aussi à l'aise sur un plateau télé ou avec un micro à la main. Mais c'est cool, c'est pareil. Hein, c'est franchement des belles expériences de vie comme ça. Et puis des belles rencontres. Et puis, comme je disais tout à l'heure, aller voir l'envers du décor, tout ce qui se passe à Paris, parce qu'on est filmé toute l'année, mais on voit pas au final tout ce qui passe par Paris et c'est cool de se rendre compte de tout ça et encore une fois des belles rencontres. Ouais, franchement, je pense que j'ai des belles opportunités dans ma vie là.
Et tout en gardant un ancrage avec la montagne.
Oui,
ta
par
famille.
Contre, je partirai pas de mes montagnes. Non, là-dessus, je préfère
c'est
mon
vraiment
petit
ton
calme.
Équilibre.
Ouais, c'est mon équilibre. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire de base, donc assez solitaire. J'aime bien mes montagnes, j'adore la nature. Et c'est comme ça que je me ressource, c'est là-haut à la maison. J'aime bien travailler le bois, bricoler. Donc du coup, j'ai besoin de mon petit moment tranquille. Et Paris, c'est sympa. En vrai, ça m'a changé là. Je viens pendant 2 jours, bam, ça me change complètement d'environnement. Ça fait du bien, mais pas plus de 3-4 jours. Après, je repars, je suis plus fatiguée que je suis arrivée.
C'est plus fatigant que la saison entière.
C'est ça, c'est ça.
Non, c'est génial. Et tu te projettes comment? Enfin, toi, la suite, j'imagine que tu veux continuer le biathlon. Tu sais déjà vers où tu vas?
Non, pas complètement, parce que je pense que, pareil, j'ai pas envie de me fermer. Je pense vraiment que ma carrière peut peut-être m'apporter des opportunités auxquelles j'aurais jamais pensé. Mais en tout cas, là, j'ai envie d'aller dans le biathlon au moins jusqu'aux prochains Jeux Olympiques en 2026, parce que les Jeux reviennent en Europe et c'est quand même quelque chose qui fait rêver. Et forcément, j'ai l'amour du sport et j'aimerais bien transmettre ça aux plus jeunes, même pas forcément en compétition vraiment, mais plus l'amour du goût de l'effort, d'être dehors. Donc je me disais à des jeunes dans un club, leur faire découvrir en faisant des jeux, tout ça. C'est quelque chose que je pense que ça m'attirerait à la fin de ma carrière. Et après, j'ai un CAP de menuiserie, complètement rien à voir avec le ski. J'ai un CAP de menuiserie, j'aime bien, je suis pas très scolaire, je suis plutôt manuelle, donc j'aime bien bricoler et j'aimerais bien partir dans l'ébénisterie, donc faire une reconversion là-dedans. Donc je me dis, les deux peuvent être compatibles dans tout ça, on verra la suite.
On sent que la transmission, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur.
Ouais, j'aime bien. Franchement, les jeunes, je trouve qu'ils sont, ils sont cool. Je faisais des fois, là, j'ai plus trop le temps, mais quand j'étais il y a un ou deux ans, je faisais l'étoile des saisies, ça s'appelle. C'est une course vers chez nous. Et moi, la saison était trop longue, j'en pouvais plus, je la faisais pas. Mais j'allais faire le coach avec les plus jeunes. Ils me donnaient un groupe et puis je leur expliquais l'échauffement, je les accompagnais sur la course. Mais c'est un truc de fou. Hein. Moi, c'était des gamins, hein. Ils avaient 7-8 ans, mais j'étais déjà à bloc. Allez, vas-y, pousse. mais plus que vraiment la compète, c'est juste qu'ils s'amusent aussi, qu'ils soient fiers d'eux une fois qu'ils aient passé la ligne, parce que tout le monde ne sera pas champion, ça, il faut en être conscient, mais par contre c'est l'école de la vie, hein, le sport, clairement ça apporte les valeurs, ça apporte plein de choses, et moi je vois que ça m'a fait créer des liens super forts avec des copines, et ces jeunes, j'aimerais bien qu'ils s'éclatent comme ça.
Presque redonner ce que le sport et le biathlon t'a donné.
Exactement, c'est ça. Et ouais, moi j'ai toujours été accompagnée avec des coachs passionnés, et je pense que c'est ces personnes-là qui font que les émotions, les victoires sont encore plus belles, c'est de transmettre ces émotions-là.
T'as confiance en l'avenir du biathlon ?
Ouais, je suis positive là. C'est pas tous les jours comme ça, hein, mais là je suis une bonne journée positive. Non, franchement, je pense que il va y avoir des coups durs comme tout le temps. C'est pareil, il y a des années creuses, mais je pense qu'on peut avoir encore des belles années devant nous. La France n'est pas un pays avec les plus gros moyens ou quoi, mais je pense qu'il y a justement il y a quand même un amour de pour cette discipline, et j'espère que les jeunes vont continuer à se donner les moyens de performer. Et je pense qu'on pourra en faire encore de belles choses.
Et du biathlon féminin, particulièrement.
Ouais, mais en plus, on a vraiment une belle relève chez les féminines. Donc, je pense qu'il va y avoir encore des années dorées. C'est comme ça que je le vois. C'est ce que j'espère, en tout cas.
Bah écoute, c'est ce que je vous souhaite. Merci. Et puis, t'es encore hyper jeune, donc...
Ouais, ça dépend à quel âge on passe la barrière, mais ça va pour le moment.
Tu l'as dit tout à l'heure, à 30 ans, on n'est pas vieux. Hein, donc,
moi, j'ai 30 ans, pas vieux. Non.
Je ne peux que confirmer ce que tu dis.
J'ai un peu de marge encore.
C'est top. Quel est le message que t'aimerais passer aux personnes qui écoutent ce podcast, et qui, peut-être des jeunes d'ailleurs, qui ont envie de commencer le biathlon, ou des moins jeunes, qui ont peut-être aussi envie de commencer le ski de fond, ou le biathlon, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ?
Bah foncez, hein, si vous avez envie d'essayer, foncez. Au début, c'est pas forcément facile, il faut avoir un peu de technique, mais en tout cas, c'est des super moments. Franchement, moi, je me suis éclatée, j'ai trouvé ma voie là-dedans, donc si quelqu'un a envie d'essayer, il faut y aller, on n'a pas de vie, donc faut tenter, et je les accueille avec grand plaisir au Saisies.
Ouh! Attends, parce que moi, je note le rendez-vous et je viens au Saisies.
Ouais, bon,
c'est un peu
plaisir.
La fin de l'hiver, là, malheureusement.
Ouais, mais c'est pas grave. Ce qui est bien avec le biathlon, c'est qu'on peut faire du ski roue aussi l'été. Bon, la chute fait un peu plus mal, mais ça peut s'arranger.
Et pour clôturer ce podcast, j'aimerais te poser une dernière question que je pose à toutes mes invitées, qui est, si tu devais donner la définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais?
Ouais, étant donné que j'ai écouté le podcast très souvent, je m'y attendais, mais pour moi c'est quelqu'un qui croit en ses rêves, vraiment qui croit en ses rêves, qui se donne les moyens d'y arriver, vraiment. Je trouve que ça c'est la plus belle manière de décrire championne pour moi.
Généralement, moi, je trouve ça génial, parce que c'est vrai que les définitions qu'on donne, c'est aussi des définitions généralement qui peuvent être propres à la personne que j'ai en face de moi. Donc là, très clairement, je trouve que c'est vrai que cette saison, et même globalement ta carrière, résume ça. Donc,
merci.
Non, c'est vrai.
merci.
Je le pense vraiment. Merci beaucoup, Julia, pour ce temps ensemble.
Ouais, c'est passé vite. Hein,
c'est passé très vite. Ça fait déjà 3 quarts d'heure. Donc,
c'est bon, on va couper alors, parce que les pauvres...
Oh non, attends, tu rigoles ou quoi ? Moi, justement, 45 minutes, moi, je ne les ai pas vues passer, donc j'imagine que ça ne va pas passer non plus pour les gens qui nous écouteront. Bravo encore pour cette magnifique saison. Merci pour les étoiles que tu nous as mis dans les yeux aussi.
Merci.
Et ça a été extrêmement plaisant de suivre cette saison. Et j'espère que les gens continueront à suivre, que ce soit toi ou en tout cas l'équipe de France en général, dans sa globalité. Et je vous souhaite plein de beaux résultats. Et qu'est-ce que tu vas faire là d'ailleurs ? Parce que c'est vrai qu'on parle, souvent la saison, tu dis qu'elle est longue. C'est vrai qu'elle est longue, mais votre hors-saison, votre off-saison, il est très très long aussi.
Ouais, beaucoup d'entraînement. Alors en fait, ça surprend beaucoup de monde, mais en fait, 3 semaines de pause à peu près. Et on recommence, c'est très peu. Mais on recommence l'entraînement début mai, mi-mai, voilà, pour recommencer le foncier. Donc après, comme je disais, c'est du plaisir. Donc ce qui me donne envie, course à pied, vélo, voilà, ça va repartir sur la routine, des longues séances d'entraînement. jusqu'à fin de l'été. Et après, ça reprend un peu plus les intensités où on réapprend à notre corps à se faire mal. Ah. Donc ça, voilà. Mais un beau programme. Faut savoir que le biathlon, c'est que la lumière. Quand ce qu'on voit l'hiver, c'est que la lumière. C'est la partie visible de l'iceberg. Et il y a tout le travail qu'on fait dans l'ombre. C'est très long, mais c'est ça aussi que j'aime, parce que sinon, c'est compliqué d'être que dans la lumière.
Certes. Bah, merci beaucoup, Géa.
Merci, c'est un plaisir.
Bah, c'est un plaisir pour moi également. Et puis écoute, on se donne peut-être rendez-vous au CESI pour un cours de biathlon. Ou
Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Je serais ravie, j'en ai jamais fait. Donc ouais. Tu vois, ce serait l'occasion.
Le rendez-vous est pris.
Allez, le rendez-vous est pris. À bientôt.
À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt!